Bonjour à tous. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, ta voisine? Dis-lui bonjour. Demande-lui comment il s'est réveillé. Si tu veux même lui prononcer quelques paroles de bénédiction, dis-lui que ta journée soit bénie, que ton travail soit béni, que ta famille soit bénie, que tout ce qui te touchera soit béni. Que le Seigneur soit avec toi dans cette journée. Que la grâce de Dieu vous accompagne dans cette journée. Que la faveur de Dieu vous accompagne dans cette journée. Je prie que Dieu fasse du bien à quelqu'un dans cette journée. Je prie que Dieu bénisse le commerce de quelqu'un dans cette journée. Je prie que ce que tu toucheras dans cette journée soit béni. Je prie que ce qui ne marchait pas commence à marcher au nom de Jésus. Je suis dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 23. Hier, nous avons parlé des choses qui font à ce que la parole de Dieu n'ait pas d'impact dans nos vies. Et nous avons parlé des quatre choses. Je prie que nous puissions vraiment pratiquer et appliquer tout ce que nous sommes et dire en Seigneur. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 23. L'apôtre Pierre écrit et dit, puisque vous avez été régénérés, c'est-à-dire transformés, c'est-à-dire vous avez une nouveauté de vie, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Et cette semence est par la parole vivante, permanente de Dieu. J'ai commencé en disant hier que la seule chose qui peut changer, transformer la vie d'un homme, c'est la parole de Dieu. Il n'y a rien de si bon comme la parole de Dieu. Et dans chaque matin ou dans cette opération, André, n'attendez pas qu'on prie pour vous. La parole de Dieu est la solution. Vous savez, il y a des choses qui se font lorsque la parole de Dieu est en train d'être annoncée. Lorsque nous prêchons, il peut se faire que même des malades soient en train d'être guéris. Lorsque nous prêchons, il peut se faire que Dieu soit en train de répondre à tes problèmes et à tes préoccupations. C'est pourquoi je nous prie de ne pas être distrait parce que la parole de Dieu régénère. Et lorsqu'elle régénère, nous allons parler de cela peut-être demain ou après-demain. Elle a de l'impact dans nos vies. Pas seulement dans la vie comme corps, mais elle a de l'impact même dans l'âme de l'homme, dans l'esprit de l'homme. Alléluia.
Amen.
Ce matin, j'aimerais commencer en nous parlant sur quelques principes importants à savoir sur la parole de Dieu. Des choses que nous devons connaître coûte que coûte sur la parole de Dieu. Et les premiers principes que j'aimerais énoncer, c'est que la Bible nous encourage à connaître la parole de Dieu. Et elle va même plus loin, à la connaître par cœur. J'ai dit, la Bible nous encourage à connaître la parole de Dieu. Elle va plus loin à connaître cette parole par cœur, à la mémoriser. Écoutez dans Josué chapitre 1er, verset 8. Dieu est en train de parler de Josué et il lui donne des stratégies de succès par rapport au leadership. Il lui dit ceci, que ce livre de la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits. Pourquoi? Afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu pourras réussir dans tes voies et tu prospéreras. Il lui dit, ne t'éloigne pas de ce livre, ne t'écarte pas de ce livre, ne va pas loin de ce livre. J'aimerais nous encourager, frères et sœurs, à faire de la Bible notre ami.
Amen.
À être proche de la parole de Dieu. Il dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits. Et il y a des conséquences. Tu pourras réussir dans tes voies et tu prospéreras. J'aime ce que Dieu dit à son peuple dans Deutéronome 11, verset 18. Écoutez ce qu'il dit, Deutéronome 11, 18. Là, il va plus loin. Il dit, mettez dans votre cœur
et dans votre âme
ces paroles que je vous dis. Il ajoute, vous les lierez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontons entre vos yeux. Frères et sœurs, le Seigneur veut que nous puissions connaître la parole de Dieu. Le Seigneur veut que nous puissions connaître la parole de Dieu. Je ne sais pas comment je vais vous le dire ce matin, mais j'aimerais encourager quelqu'un à connaître la parole de Dieu. J'aimerais pousser quelqu'un ce matin à connaître la parole de Dieu. Et encore plus que ça, à la connaître par cœur. Je vais ouvrir une parenthèse que je fermerai rapidement. Paul écrit et il dit ceci, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ok? Paul n'a jamais dit, je ne permets pas à la femme de prêcher. Est-ce que vous comprenez? Parce que la première personne à prêcher l'évangile, c'est une femme. Prêcher, c'est quoi? Annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Lorsque Jésus est mort et ressuscité, qui ont découvert le premier que Jésus est ressuscité? Ce sont les femmes. Et Jésus a dit, allez dire à mes disciples, le premier à annoncer la résurrection de Christ, ce sont les femmes. Alors, si vous dites que les femmes ne prêchent pas, vous êtes à côté. Parce que ce sont elles qui ont annoncé la bonne nouvelle le premier. Et lorsque vous lisez dans Psaume, la Bible dit, Dieu a suscité une grande armée de femmes pour la bonne nouvelle. Mais Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je vois d'autres églises qui disent non, il n'est pas permis à la femme d'enseigner. Et d'autres vont plus loin avec ces versets que les femmes se taisent dans l'assemblée des saints. Ok, si vous voulez que les femmes se taisent, qu'elles ne chantent même plus dans la chorale, qu'elles quittent la chorale parce qu'elles partent dans la chorale par son chanteur. Est-ce que j'ouvre juste cette parenthèse et vous dis, les femmes ont droit de prêcher. Mais pourquoi est-ce que Paul dit que la femme n'enseigne pas? Parce qu'en Israël, lorsqu'un enfant naissait, à l'âge de 4 ans déjà, s'il était garçon, on l'apprenait les Torahs. La Torah, la loi de l'Éternel, déjà à l'âge de 4 ans. De 4 ans à 29 ans, cet enfant apprenait la loi par cœur. Et lorsque cet enfant avait l'âge de 30 ans, il entrait dans les temples. Et il ouvrait les Écritures et il pouvait lire les Écritures et il ne s'arrêtait pas par là. Il l'expliquait parce qu'il connaissait la parole. Mais la fille n'apprenait jamais la Torah. Elle n'apprenait jamais la loi. Comment va-t-elle enseigner des choses qu'elle ne connaît pas? Voilà pourquoi lorsque Paul écrit, il dit qu'elle n'enseigne pas parce qu'elle ne connaît pas. Pourquoi elle va enseigner si elle ne connaît pas? Jésus, lorsqu'il a l'âge de 30 ans, il entre dans l'église. Il ouvre une portion des Écritures, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour ma papa. Et puis il donne l'explication, ces choses se sont accomplies aujourd'hui. En d'autres termes, ce que vous venez de lire, c'est moi, on a voulu les lapider. Mais lorsque vous lisez la Bible, Paul ne s'est pas arrêté que la femme n'enseigne pas. Le verset qui suit, il dit, elle peut enseigner que si elle devenait mère. Le mot mère ici, ce n'est pas maître des enfants, c'est le mot maturité. Une femme mature peut enseigner. Ah, c'est ça. La Bible, elle s'est complète et elle est claire. Le problème, c'est que nous n'étudions pas la Bible. Alors, j'ai juste voulu dire ces choses pour dire, nous devons apprendre la parole de Dieu par cœur. Dis à ton voisin, tu dois apprendre la parole de Dieu par cœur. C'est anormal, tu fais 5 ans dans le Seigneur. Mais tu es incapable de connaître par cœur ne plus que 5 versets de la Bible. C'est anormal. Tu connais les séries novelas, tu connais les films et tout, les noms des acteurs, mais connaître ne plus que 5 versets, c'est-à-dire un verset par année, c'est compliqué pour toi si tu as un problème. Le pasteur Roland nous dit une histoire, une fois on l'invite à Maroc. Lorsqu'il arrive en Maroc, l'église qu'il a invitée, c'était une petite église de plus ou moins 50 personnes. Combien? Alors il a été étonné, il dit, mais ces gens, comment ils peuvent investir plus de 1000 dollars pour m'inviter alors qu'ils ne sont qu'au nombre des 50? On le fait visiter l'église et puis on lui dit, pasteur, on n'a pas voulu te dire pour ne pas te déstabiliser. Tu ne vas pas prêcher aux 50 personnes, mais tu vas prêcher à une foule de plus de 10 000 personnes. Il dit, mais comment? Vous n'êtes qu'à 50. Comment vous serez à 10 000? Il lui dit, pasteur, ici c'est interdit. La loi ne nous permet pas de prêcher l'évangile aux Marocains parce qu'ils sont musulmans. Alors nous les faisons clandestinement. Et là où nous allons aller prêcher, on n'amène pas la Bible. Alors donc, si tu as quelque chose, n'amenez jamais la Bible. Alors ils vont les prévenir, ils disent, quand nous partons là-bas, nous partons comme un parti politique. Les médias savent peut-être que c'est PPRD qui se raconte. Et ce sont dans des endroits souterrains. Elle lui dit, pasteur, tu ne viendras pas avec une Bible, mais il faut juste connaître par cœur tes versets et tu sauras ce qui va se passer. Le pasteur arrive souterrain, il a vu des milliers de personnes, il a été touché. Et devant ici, il y avait 66 personnes. Pour lui, il a cru que c'était la chorale. À sa grande surprise, quand il commençait à citer les versets, quand il dit Genèse 1, il y avait un frère. Genèse, c'est-à-dire qu'il connaissait tous les livres de Genèse par cœur. Les 66 personnes représentaient chacun un livre de la Bible et il les connaissait par cœur. À un certain moment, on lui a présenté un vieillard, on lui a dit, ce vieillard, nous l'appelons frère Pentateuque, parce qu'il connaît les 4 livres, les 5 livres de Moïse. On lui a présenté, on lui dit, ce frère, on l'appelle évangile, parce qu'il connaît les 4 évangiles par cœur. Lui-même dit, en sortant de là, il était non seulement édifié, mais il était aussi scandalisé, parce qu'il s'est dit, moi j'ai ma Bible, mais je ne connais pas même un livre par cœur. Frère, nous blaguons avec le Seigneur. J'aimerais nous inviter à lire un livre, peut-être que vous n'avez jamais lu, ou peut-être que vous pouvez trouver. C'est un livre intitulé « L'Église du silence torturé ». Par le Christ. C'est un monsieur qui vous parle comment ils ont souffert. Ils ont souffert. Il te dit, chaque fois qu'il tombait sur une Bible, il devait, dès l'instant où il tombe sur ça, il devait apprendre autant qu'il peut parce qu'il ne savait pas quand on va aller ravir cette Bible-là. Mais vous avez vos Bibles, mais vous ne savez pas les versets par cœur. Dans quel ciel allons-nous? La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. L'apôtre Paul écrit dans Colossiens 3, verset 16, il dit que la parole de Christ habite parmi vous en abondance, dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres. Aide-moi à dire à ton voisin, tu dois apprendre la parole de Dieu par cœur. Comment va-t-il apprendre la parole de Dieu par cœur quand il n'a même pas le temps de lire ça? Église, c'est notre mission de connaître la parole de Dieu et de l'apprendre par cœur. J'étais dans une église, un prédicateur, on lui donne le message et il avait beaucoup de papiers comme moi. Alors le vent a soufflé et quand le vent a soufflé, tout est tombé par terre, la prédication a pris fin. Parce qu'il ne se retrouvait pas, il commençait à dire, il y a un papier qui manque. Le problème, il ne connaît pas les choses. Pas. Je me rappelle quand on était étudiant, on avait un ami qui s'appelait Pasteur. Il portait toujours sa veste rouge, qui tendait déjà à une couleur blanche. Ce qui était bizarre, c'est Pasteur. Moi, quand j'étais à l'université, je n'ai jamais montré que j'étais pasteur. Un jour, un de nos étudiants a connu un problème. Je pense que sa mère était morte ou quelqu'un de sa famille. Alors, on part au dé. On demande au pasteur, est-ce que tu peux nous prêcher? Le pasteur dit, je n'ai pas de Bible. On le supplie, on dit, est-ce que tu peux prêcher? Il dit, je n'ai pas de Bible. J'ai dit, non, laissez tomber. Donnez-moi la parole. Je prie la parole, je prêchais sans Bible. Les gens ne comprenaient pas. Comment il peut prêcher sans Bible? Parce que nous connaissons la parole par cœur.
La deuxième chose, connaître la parole de Dieu par cœur ne suffit pas. Il faut la vivre. Ça ne sert à rien de connaître autant de versets, beaucoup de versets, si tu ne vis pas ces choses. Le plus important n'est pas de connaître les versets, n'est pas de mémoriser les versets, mais de vivre ces choses. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous scandaliser, mais qui est vrai. Est-ce que vous savez que le diable connaît la parole de Dieu?
Oui.
Et peut-être qu'il connaît la parole mieux que nous. Dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11, la Bible nous parle de la tentation de Jésus. Le diable vient tenter Jésus. Il lui dit, Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus regarde et dit, Satan, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort. Le diable dit, tu ne sais pas que je connais la parole de Jésus. Quand tu as dit, il est écrit. Moi aussi, je te montre qu'il est écrit. Écoute, Jésus, il est écrit que Dieu ne permettra pas que ton pied soit heurté sur une pierre. Il ordonnera un ange de venir te délivrer. Frères et sœurs, même le diable connaît les Écritures. C'est anormal de voir des chrétiens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Vous voulez que je vous prouve? Hein? Quand un témoin de Jéhovah vient vous dire que nous hériterons la terre, vous dites toujours comment? Non. Mais c'est vrai que nous allons hériter la terre? Ah, vous êtes scandalisés. Je vous dis, nous allons hériter la terre. Là, il n'y a plus les amens. Frères et sœurs, nous allons éviter la terre. À la seule différence des témoins de Jéhovah, c'est que les témoins de Jéhovah parlent de cette terre. Mais la terre dans laquelle nous allons éviter, la Bible dit, il y aura des nouveaux cieux et de nouvelles terres qu'on appelle nouvelles. Alors, quand tu pries, je vais aller au ciel, c'est faux. Tu ne vas pas aller au ciel. Tu vas hériter la terre. Et quand tu lis la parole de Dieu, tu comprends. Tu ne feras plus de discussion avec un témoin de Jéhovah. Tu vas juste lui montrer. Toi, tu penses à cette terre. Mais c'est une terre qui descendra. Parce que cette terre, la Bible dit, Dieu la prendra et il va, la terre que nous voyons, le ciel que nous voyons, il va les prendre comme un papier et il va les jeter dans un feu. Et il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Dans le ciel, il n'y aura que Dieu, parce que le ciel appartient à Dieu. Voilà pourquoi quand tu pries, ne dis pas je vais aller au ciel. Non, nous allons hériter la terre, mais une terre qui n'est pas faite, ce n'est pas cette terre que vous voyez, mais la terre que Dieu est en train de fabriquer. Jésus a dit, je m'en vais au Père pour vous préparer un nouveau demeure. Tout ça, c'est parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Quand vous connaissez la parole de Dieu, il y a des discussions qui vont disparaître. Alléluia.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Nous devons connaître la parole de Dieu et la vivre. C'est ça le grand problème. Beaucoup de gens connaissent la parole de Dieu, mais ils ne la vivent pas. Dis à ton voisin, tu dois vivre la parole de Dieu. Troisième principe. C'est que tout enseignement de la parole de Dieu poussé à l'extrême devient une fausseté. Je répète, tout enseignement de la parole de Dieu poussé à l'extrême devient une fausseté. Je vais vous donner un exemple. J'ai entendu un prédicateur en train de prêcher dans une église. Il dit, si vous ne vous faites pas baptiser, vous n'irez pas dans le royaume des cieux. Il vous a dit que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut vous faire baptiser. C'est faux. C'est faux. La Bible dit ceci, celui qui croira et sera baptisé sera... Et non pas celui qui sera baptisé, mais celui qui croira. C'est ça le début. Et puis il se fera baptisé. Alors il sera
sauvés. Parce que si vous prêchez que non, c'est le baptême qui vous donne le salut, vous êtes dans le faux. Jésus est à la croix avec deux brigands à ses côtés. Un dit qui dit, mais toi tu es quel genre de personne? Pourquoi tu es là? Et un autre lui dit, toi tu peux dire ça vraiment, toi tu as volé. Tu condamnes cet innocent. Et puis regarde Jésus, lui dit, Seigneur, quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi
de moi.
Qu'est-ce que Jésus lui dit? Il lui dit, ce soir même, tu seras. Est-ce qu'il a été baptisé? Alors quand tu prêches au nom que pour avoir les salis, il faut être baptisé, tu es dans le faux.
Il ne faut pas être extrémiste. Il faut prêcher la parole de Dieu dans toute son entièreté.
Alléluia.
Amen.
C'est lui qui croit en Jésus-Christ et qui ne se fait pas baptiser et dans l'erreur. Ah, parce que là, c'est aussi un autre problème. Jésus, il vient et dit à Jean-Baptiste, baptise-moi. Jean-Baptiste lui dit, je ne peux pas, tu es plus grand que moi. Je ne suis même pas digne de délier ces sandales. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Il faut que j'accomplisse
ce qui est vrai.
Mais toi, tu es dans l'église, oh non, ces histoires de baptême-là, non, tu es dans les faux. Parce que si tu crois, tu dois les manifester par les baptêmes. Dis à ton voisin, sois équilibré. J'étais à Béni, j'ai rencontré une fille qui m'a étonné. Elle est passée devant moi. Quand je regardais, j'ai dit, waouh, et Dieu créa. Parce qu'elle était tellement belle. Et quand j'ai dit ça, quelqu'un qui était à côté de moi, il m'a dit, pasteur, tais-toi. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, celle-là, c'est une professionnelle des sexes. Je dis, c'est pas possible, une belle fille comme celle-là. Frères et sœurs, j'ai eu les aides d'aller l'évangéliser. C'était la première fois que je prêche quelqu'un et il me prêche en retour. Je regarde, je dis, ma sœur, pourquoi tu vis dans cette vie? Et elle me pose la question, tu es pasteur? Je dis, oui. Elle dit, tu ne sais pas qu'il est écrit, l'esprit est bien disposé, mais la chair... Vous me dites ce que je fais, mon esprit ne le fait pas, c'est la chair. Pasteur, j'ai voulu ouvrir la bouche, elle répond encore, pasteur, il est écrit, que le fort soutienne... Papa, même si tu fais.
Tout ce qu'elle dit, c'est la parole de Dieu, mais dans la fausseté. Et beaucoup de gens, ils ont des versets comme ça. J'ai vu quelqu'un qui dit, oh bon, mais Paul a écrit, prends un peu pour ton estomac. Est-ce que toi, tu as un problème d'estomac? Frères et sœurs, soyons équilibrés. Pressons la parole de Dieu dans toute sa véracité.
Je n'oublierai jamais cette célèbre phrase d'un de mes professeurs en hermétique. Il m'a dit ceci. Tout test hors de son contexte est un prétexte. J'ai dit ceci. Tout texte hors de son contexte est un prétexte. Je vis des prédicateurs matures du haut de la chair. Je viens prédicateur et dit, oh, l'histoire du bon samaritain. Vous connaissez tous l'histoire du bon samaritain. Hein? Il dit, mais ces sacrificateurs-là, ils n'avaient pas de cœur. Un homme sans pitié. Les Lévites, ils n'avaient pas de cœur. Un homme sans pitié. C'est faux. Lisez les contextes de ces passages-là. C'est pourquoi il est important que vous puissiez aller à l'école, apprendre. Bien dit. J'aime. C'est Pierre qui écrit ces choses tellement qu'il a connu beaucoup de problèmes parce que Pierre n'a pas étudié. Est-ce que vous le savez? Et même l'épître de Pierre, ce n'est pas lui qui l'a écrit. Il a dicté et quelqu'un était en train d'écrire. Alors, tellement qu'il a connu beaucoup de problèmes dans le ministère, un jour il écrit, il dit, à l'esprit ajouter la vertu. À la vertu ajouter la science, la connaissance. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte qu'il est limité. Est-ce que vous savez que Paul n'a jamais vu Jésus?
Oui.
Pendant que Jésus prêchait, Paul était un véritable païen. Mais celui qui a écrit beaucoup de livres dans le Nouveau Testament, c'est Paul. Pendant que Pierre, qui a été avec Jésus, a écrit ses mains. Frères et sœurs, il est important d'avoir la connaissance. Il a commencé la connaissance. C'est un être spirituel. Ah, c'est bon. Mais ajoutez. Alors, ce prédicateur entre les manteaux au lieu de la chair, oh non, ces gens, ils sont sans cœur. Des pasteurs sans cœur. Des hommes de Dieu sans cœur. Mais il y a eu un bon samarité. C'est faux. Lisez les contextes. Les contextes, c'est quoi? Cet homme qui était où? Jérusalem, et il allait où?
À Jéricho.
À Jéricho. Les commentateurs de la Bible disent que Jérusalem et Jéricho, c'était comme cette route des Goma à Boutin. Il y avait tellement des brigands et des brigands qui pillaient les gens. Alors, il était d'abord strictement interdit de marcher seul dans cette route. Il était avec qui?
Il était seul.
Il était seul. Il a été démontré que sur ces chemins, non seulement que les gens ont connu d'embuscades, mais il y a eu des gens qui ont fini, qui ont fait semblant d'être en problème. Et quand tu veux l'aider, ses amis qui sont dans le montagne, parce que c'était la vallée, ils t'attaquaient. Alors, pour éviter tout problème, quand tu racontais quelqu'un malade ou tombé par terre, tu allais d'abord dans la ville voisine et tu signalais. À notre temps, personne ne pouvait jamais mettre sa vie en danger lorsqu'il rencontrait quelqu'un dans cette route-là. Mais le bon samaritain, quand il arrive, il regarde la vie de cet homme. Il regarde sa vie et se dit, entre moi et cet homme, qui a besoin de vivre? Il dit, c'est cet homme. Il met sa vie. Et voilà pourquoi Jésus dit qu'il est le bon samaritain. Parce qu'il est le seul à mourir pour nous. Le seul qui peut mettre sa vie en danger. Et quand tu connais les Écritures comme ça, tu ne vas plus dire les mensonges du haut de la chair. Tu ne vas plus enseigner n'importe quoi. C'est pourquoi nous devons être équilibré, dis à ton voisin, nous devons être équilibrés. Quatrième principe. La parole de Dieu est immuable et éternelle. La parole de Dieu est immuable et éternelle. Dans 1 Pierre 1, verset 25. L'apôtre Pierre écrit et dit, la parole du Seigneur demeure éternellement. S'il y a une des choses qui ne passe jamais, qui demeure, c'est la parole de Dieu. Cette parole a été au commencement, elle est aujourd'hui et elle sera éternellement. Je dis, elle a été au commencement. Avant que tout ne commence, elle a été. Elle est aujourd'hui et elle sera éternellement. Dans Psaume 119, verset 89. La Bible dit, à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans le ciel. À toujours. Matthieu 24, verset 35, la Bible dit, une vérité, ça gêne. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Jamais. Pourquoi? Parce qu'elle est éternelle. Elle subsiste à jamais. Elle ne peut même pas être changée. Ok, j'aimerais insister sur un petit problématique. Je suis dans Apocalypse. Apocalypse 22, verset 18 à 19. Apocalypse 22, verset 18 à 19 dit ceci. Que personne n'ajoute, que personne ne rétranche. C'est-à-dire, cette parole, elle est complète. Elle se suffit en elle même. Je n'ai rien à ajouter, je n'ai rien à diminuer. Ok? Ok?
Oui.
Alors, je vis des gens mentir du haut de la chair. Frères et sœurs, je vais vous donner une révélation. une révélation. La révélation, c'est quoi?
La révélation, c'est apporter quelque chose qui est nouvel. C'est-à-dire quelque chose qui n'existait pas, mais que tu apportes.
Alors moi, je veux vous apporter la révélation. Je n'ai pas besoin de vous apporter une révélation parce que je n'ai pas le droit d'ajouter ni...
La révélation a existé dans les temps passés quand on écrivait la Bible, parce que la Bible dit, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Un Timothée montre que toute écriture a été inspirée, écrite pour notre édification. Donc, le temps de la révélation église est passé. Je n'ai pas besoin de vous apporter quelque chose de nouvel. Il n'y a rien que je vous prêcherai qui n'est pas dans la Bible. Est-ce que vous m'entendez? C'est vrai, nous acceptons quand quelqu'un dit j'ai une révélation à vous donner, nous acceptons, mais c'est une erreur. Ce n'est pas une révélation parce que tu n'as rien de nouveau à apporter. Tout est dans la Bible. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quel mot faut-il utiliser? Parce que la spécialité avec la Bible, moi j'ai déjà lu la Bible plus de 4 fois. Je suis à la 5e lecture, du début jusqu'à la fin. Et j'ai remarqué la particularité avec la Bible, c'est que c'est le seul livre quand tu le lis qui est toujours nouveau chaque fois quand tu le lis. La Bible, je peux lire aujourd'hui psaume 1.1 et demain quand je lis encore psaume 1.1, je le comprends autrement. Et c'est comme ça quand je viens, je me dis, frères et sœurs, j'ai une révélation. Non, je n'ai pas une révélation. Elle existait déjà dans la Bible, sauf que pendant ce temps-là, je n'avais pas l'esprit illuminé. Frères et sœurs, c'est juste une illumination. Le Saint-Esprit m'a illuminé par rapport à ces passages-là. Mais je n'apporte rien de nouveau. Alors, cher prédicateur, ne parlez plus de révélation. Dites, l'Esprit du Seigneur m'a illuminé. Parce que ça existe déjà. Tu n'as rien à ajouter, ni... Cinquième principe, et peut-être c'est par là que nous allons nous arrêter. La parole de Dieu est vraie. Dis à ton voisin, la parole de Dieu est vraie. J'aimerais affirmer et insister, la parole de Dieu ne contient aucune erreur. Aucune erreur. 112, verset 7. 112, la Bible dit et affirme au verset 7, les paroles de l'Éternel sont des paroles pires. Un argent éprouvé sur terre au creusé, et cette fois éprouvé. Frères et sœurs, la parole de Dieu est vraie. Les sages confirment ceci dans Proverbe 30, verset 5. Il dit, toute parole de Dieu est éprouvée. Elle est véridique. Elle n'a aucune erreur. Aucune erreur. La parole de Dieu n'a aucune erreur. Elle est vraie. Ce que j'aime avec la Bible, elle contient tout. Je me rappelle, dernièrement, on m'a invité à CBK Ville pour parler sur les chrétiens et la technologie. Quelqu'un est venu me dire, mais tu as trouvé ces versets où? Sur la technologie. Je lui ai dit, ça est dans la Bible. Il faut juste apprendre la parole de Dieu. Tout ce que nous voyons ici ont été prédits par les prophètes. J'ai montré aux gens les sous-marins dans la Bible. Mais le prophète ne savait pas, il parlait d'un cheval qui marchait sous l'eau. Parce que la révélation de Dieu nous est donnée selon notre conception, notre compréhension. Lorsque la Bible écrit sur Josué, la Bible dit Josué arrêta le soleil. Mais en réalité, Josué n'a pas arrêté le soleil. Parce que le soleil est fixe. Il a arrêté les mouvements terrestres. Mais comme la compréhension de cette époque, tout le monde savait que c'est le soleil qui tourne autour de la terre, alors la seule révélation en écrivant la Bible, le soleil a arrêté, et même il y a eu un homme qui a subi la mort Galilée, parce qu'il a dit la vérité, écoutez, le soleil ne tourne pas autour de la terre.
On l'a même tué par l'Église catholique parce qu'on lui a dit comment tu peux contredire les saintes écritures. Et ce n'est qu'après qu'on s'est dit il avait raison.
Frères et sœurs, Dieu peut te donner une révélation par rapport à ta famille.
Ça veut dire si Dieu vient te révéler à toi, il passera
par la personne qui t'est chère.
Toi, tu vois ta femme, tu penses que c'est ta femme. C'est pas ta femme. Il voulait juste te faire comprendre quelque chose. Ok, vous me comprenez? Bon, ça c'est une autre chose sur l'interprétation des Écritures. La parole de Dieu est vraie et véridique. Elle ne contient aucune erreur. Je suis contre ceux qui disent la Bible contient la parole de Dieu, mais elle n'est pas la parole de Dieu, c'est la vraie parole de Dieu. C'est la vraie parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions prier pendant quelques instants, parce que notre temps est arrivé à la fin. Demain, nous allons commencer à parler sur la puissance et l'impact de la parole de Dieu. Nous verrons, j'espère, 5 à 10 points selon que le temps nous permettra. J'aimerais que tu puisses prier le Seigneur. Tu coupes juste ta tête. Dis à Dieu, aide-moi à connaître ta parole. Aide-moi à connaître ta parole. Aide-moi à la mémoriser par cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, non seulement la mémoriser, mais aide-moi à vivre cette parole. Aide-moi à la pratiquer. Il est possible ce matin que lorsque je parlais, quelqu'un puisse avoir l'envie de retourner à l'école pour apprendre la parole de Dieu. Il est possible que même un homme de Dieu reprenne le chemin de l'école pour contextualiser la parole de Dieu. C'est vrai, tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as la puissance du Saint-Esprit en toi, mais c'est mieux encore si tu as la connaissance. J'aimerais que quelqu'un aille le savoir et qu'il prie selon que Dieu lui a parlé, qu'il prie selon que Dieu lui a dit. Est-ce que nous pouvons parler à Dieu? Est-ce que nous pouvons prier? J'aimerais que pendant quelques instants que nous puissions prier. Je prie qu'il y ait des hommes qui parlent à Dieu. Je prie qu'il y ait des hommes qui parlent à Dieu. Il y a beaucoup de gens ici qui n'ont plus de vie de méditation de la parole de Dieu. Ils n'ont plus le temps de lire la parole de Dieu. Qu'il y ait des gens qui viennent lire la parole de Dieu, que quand ils sont à l'église, je ne révise pas, mais je nous prie en dehors de l'église, lorsque nous rentrons à la maison, que nous ayons une discipline de la parole de Dieu. Chaque fois que tu aies une discipline, un plan pour la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, Seigneur, aide-moi à être discipliné dans ma méditation de la parole de Dieu. As-tu déjà lu la Bible en entièreté? Et pourquoi tu t'es dit enfant de Dieu, mais tu ne connais pas la parole de Dieu? Voilà pourquoi le diable m'a dribblé plusieurs parmi nous. Voilà pourquoi le diable, la plupart des gens ici, seront la proie de l'ennemi. J'aimerais dire à quelqu'un, la prophétie par excellence de ta vie, c'est la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de chercher un prophète. Tu as besoin d'examiner les saints. Écritures, et lorsque tu les examines, Dieu te parlera, Dieu changera ta vie, Dieu transformera ta vie. Et c'est quelqu'un qui dit, Seigneur, aide-moi à connaître ta parole, aide-moi à la mémoriser, surtout à la pratiquer, Seigneur, aide-moi à pratiquer cette parole. Aide-moi à mettre en pratique cette parole. Je t'en supplie, Seigneur. Soutiens ton Église. Donne-nous des hommes et des femmes qui connaissent ta parole. Donne-nous des hommes et des femmes qui s'appliquent à la parole, qui ont une discipline à la parole. Ce matin, je voudrais prier pour une catégorie des hommes et des femmes. J'y reviendrai peut-être tout au long de la semaine. Ta vie de discipline à la méditation a baissé. Lève-toi, Seigneur, je vais prier avec toi. Tu n'as plus cette discipline à la méditation de la parole. Lève-toi, je vais prier avec toi. Lève-toi, je vais prier avec toi. Tu n'as plus cette discipline à la méditation de la parole de Dieu. Lève-toi, je vais prier avec toi. Tu es serviteur de Dieu, mais chaque fois que tu lis la parole de Dieu,
c'est juste quand il faut prêcher. Mais tu ne la lis jamais pour toi-même. Lève-toi, je vais prier aussi avec toi.
Tu lis la parole de Dieu. Tu la médites, mais tu n'arrives pas à la pratiquer. Lève-toi aussi, nous allons prier avec toi. Tu sais, tu connais ce qui est vrai. Mais souvent, tu as du mal à appliquer ces choses-là.
Lève-toi, nous allons prier avec toi.
Je vis quelqu'un qui, chaque fois, c'est comme s'il avait la maladie d'épilepsie lorsque je priais vers 4h30. Le Seigneur m'a dit clairement, cette personne, il dit toujours, c'est la dernière fois. Je ne le referai plus. Mais chaque fois, il retombe. Il retombe. Si vous êtes là, lèvez-vous, je vais prier avec vous. Vous connaissez ce que la Bible dit. Mais souvent, peut-être, ce sont les circonstances de la vie qui ne vous permettent pas d'appliquer ces choses-là. Mais ce matin, vous aimeriez dire, Jésus, tiens-moi à la main. Parce que Jésus dit, seul, vous ne sauvez rien. Vous ne pouvez rien sans moi. J'aimerais dire, Jésus, tiens-moi à la main. Comme Pierre qui était en train de chavirer. Il a crié au maître. Ce matin, je sens des gens crier au maître pour dire, Seigneur, aide-nous à pratiquer cette parole. Aide-nous à pratiquer cette parole. Je sens prier pour un jeune homme en particulier, s'il est possible, que ce jeune homme me voie juste après ce message. C'est un jeune frère qui n'a que 22 ans. Je dis bien 22 ans. Depuis un temps, il a commencé en technologie. Je précise bien, en technologie. Mais depuis un temps, cette soif de faire la théologie monte dans son cœur. À ce jeune homme, le Seigneur m'a dit de lui dire clairement, tu ne fuiras pas les chemins du ministère. Je le vis avoir peur parce qu'il a vu certaines personnes qui sont passées par le chemin du ministère et qui ont connu des moments difficiles. À ce jeune homme de 22 ans, en technologie, à qui la soif de la théologie monte, il a envie d'apprendre la parole de Dieu, il a envie de connaître la parole de Dieu. Des fois, il pose même beaucoup de questions. Le Seigneur m'a dit de lui dire clairement, laisse-toi guider par le Saint-Esprit, donne ton ministère, tu seras un des grands serviteurs dans ce pays. Un des grands serviteurs que ce pays n'a jamais connu. Tu as peur de prendre ces risques, prends-les avec Jésus. Élevez déjà vos mains à l'air, commencez à parler à Dieu. Commencez à parler à Dieu. Commencez à parler à Dieu. Vous vous connaissez mieux que moi. Je peux manquer à Dieu cette faiblesse. Et dire, Seigneur, soutiens-moi. Soutiens-moi, Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta faveur. J'ai besoin de ta faveur. Avant que je ne laisse ces micros, je sens faire un appel qui s'impose dans mon cœur. Je vois clairement des jeunes gens, lorsque je suis en train de prêcher, dans leur cœur, ils sont en train de dire, j'aimerais devenir comme lui. Qui sait que le Seigneur m'a envoyé dans cette église pour influencer une catégorie de jeunes gens au ministère. Vous êtes là et que lorsque j'étais en train de prêcher, vous étiez en train de dire, j'aimerais devenir comme lui. Levez-vous, je veux prier avec vous aussi. Merci Seigneur. À cette catégorie, je prie que le Seigneur vous amène plus loin que moi. Je prie que là où moi j'ai échoué, que vous n'échouez jamais. Je prie que là où Je suis limité, que vous ne soyez jamais limité. Je prie que la grâce qui est sur moi tombe sur vous à une double portion. Je prie que cette soif de la parole naisse, grandisse. Seigneur, donne-nous une église des hommes et des femmes qui peuvent dire comme David, les ailes de ta maison me dévorent. Ou la race de ces hommes et femmes qui peuvent dire comme Jérémie, lorsque je ne veux pas parler de lui, je sens comme un fait dans mon cœur. Seigneur, suscite la soif de ta parole dans mon cœur. Je m'aurais invité notre pasteur à venir prier avec nous, à nous recommander entre les mains de Dieu.
Seigneur, ta parole est la vérité. Cette parole par laquelle tu nous as franchi des tares du péché, des situations qui envahissent nos vies chaque fois que nous prenons des résolutions devant toi. Nous prions pour ces bien-aimés qui sont debout devant toi. Cette fois-ci engagés à méditer ta parole, à inscrire dans leur agenda de chaque jour un temps mis à part pour méditer ta parole. Nous prions que tu les aides, Seigneur, afin que cette fois-ci, cet engagement s'inscrive dans la durée et qu'il soit possible de voir dans leur vie une des implications réelles que, ô Dieu, tu leur accordes la grâce de franchir un pas décisif, déterminant pour le reste de leur vie. Nous prions que ton Esprit Saint agisse. Lui seul, Seigneur, peut nous rendre capables là où nous sommes incapables. Nous prions que ton Esprit Saint agisse, Seigneur, afin que lui seul mette dans leur cœur un cœur, dans leur être intérieur profond, un esprit bien disposé, un cœur prêt à écouter, à intérioriser cette parole, afin que cette parole qu'ils écouteront désormais chaque jour ait un impact réel sur leur manière de vivre la foi, de se consacrer totalement à toi, de consacrer à la fois leur corps, leur âme et leur esprit en toi, afin que tu les sanctifies. Nous prions, Seigneur de gloire, que tu puisses aider nos bien-aimés à se relever la tête, à accepter, Seigneur, que tu les appelles à toi et à toi seul. Il y a des moments comme ceci, Seigneur, où tu as envahi ton peuple pour l'aider à se relever de tout ce qui a les a empêchés de vivre une vie chrétienne normale. C'est cette parole-là qui a changé nos vies. C'est aussi cette parole-là qui peut nous conduire dans une vie de sainteté, une vie qui te glorifie, une vie qui donne gloire à ton nom. Bénis nos bien-aimés, Seigneur, afin que ce pas qu'ils viennent de faire soit un pas qui les conduit vers une connaissance de ce que toi tu es, de ce que toi tu veux faire dans leur vie, de ce que tu veux opérer par ta grâce puissante dans la vie de chacun. Bénis les Seigneurs et permets que là où ils ont failli au cours des temps passés, qu'ils réalisent, oh Dieu, que tu es un Dieu qui pardonne, qui lave les péchés, qui lave nos cœurs de tout péché, de toute iniquité. Accorde la grâce à nos bien-aimés, Seigneur, de saisir cette opportunité que tu leur offres face à l'appel que tu es en train de l'adresser au cours de cette semaine, afin que ce pas qu'ils sont en train de faire soit un pas que tu fais avec eux. Bénis-les, soutiens-les, fortifie leur foi, affermis cet engagement, Seigneur, et permets qu'il soit un engagement conséquent pour le reste de leur vie. Dans le principe au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen.
Le temps est avancé, je ne sais pas si il y a une question. Juste une question.